Vous écoutez, on lit pour vous.
Des documents récents découverts brossent un portrait du Montréal de 1650. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 18 janvier 2024 dans Le Devoir. J'en avais la chair de poule quand j'ai compris que c'était des documents de Jeanne Mance, lance Paul Labonne, le directeur général du musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'est une nouvelle énorme. Nous avons devant nous, avec ces documents, un portrait à peu près inédit de Montréal de 1650. À ce moment, l'Hôtel-Dieu est barricadé. Les attaques iroquoises sont nombreuses. La chapelle est utilisée comme magasin d'artillerie. Jeanne Mance se réfugie dans un fortin. Aux fenêtres des greniers, pour résister aux attaques nombreuses et répétées, raconte-t-elle, on a placé au moins deux pierriers, un canon à bras monté sur un trépied, plus ou moins l'équivalent du bazooka d'aujourd'hui. Au rez-de-chaussée sont placés deux canons. Des meurtrières sont percées partout pour permettre de tirer. L'implantation de Montréal ne se fait pas dans le calme et la douceur. Ces documents rares, Paul Labonne les a eus pour la première fois en main au printemps dernier. Tout le monde a répété que ces documents originaux au sujet de la fondation de Montréal avaient brûlé dans l'incendie de l'Hôtel-Dieu, qu'il ne restait pratiquement rien. Mais personne n'avait compris que les documents étaient partis à Québec à la mort de Jeanne Mance, selon ses souhaits. Les documents s'y trouvaient toujours, plus ou moins bien classés, et donc invisibles, à moins d'y prêter attention. Les documents n'étaient pas identifiés à Jeanne Mance, explique Paul Labonne, même s'ils proviennent des papiers laissés à son décès selon ses souhaits. Dans une lettre longue de plusieurs pages, Jeanne Mance explique les raisons qui l'ont conduite à remettre la somme de 22 000 livres, soit l'équivalent environ de 700 000 $ d'aujourd'hui, à Paul de Chaumédée de Maisonneuve. Il fallait recruter une centaine de colons en France pour aider à établir ce projet religieux qu'était Montréal, explique-t-elle dans ce document. Jeanne Mance écrit qu'elle se devait d'investir cet argent afin de sauver un pays où infailliblement Dieu serait beaucoup honoré en retirant infinité d'âmes des ténèbres de l'infidélité où elles étaient. Son rapport particulier au monde autochtone apparaît clairement dans ce texte. Elle considère les Iroquois comme des barbares, des furies insolentes. C'est la guerre. En fait, cette lettre écrite par Jeanne Mance avait déjà été repérée dès 1953 par sa biographe, l'historienne Marie-Claire d'Aveluy. Mais faute d'avoir été exploitée, elle était pour ainsi dire retombée dans l'oubli. En fait, c'était toujours le résumé qu'en donne François Dollier de Casson dans son Histoire de Montréal qui était cité. Jamais l'original. Il était réputé perdu. Parce que l'hôpital avait brûlé, et le voilà pourtant, cet original, enfin retrouvé. Parmi les papiers retrouvés, il faut aussi compter une douzaine de contrats attestant de l'engagement, en 1644, de paysans et d'artisans français par Jérôme Le Royer de la Dauversière, procureur de la Société de Notre-Dame de Montréal, afin qu'il s'achemine vers le Nouveau Monde. On comprend bien pour la première fois, explique Paul Labonne, que c'est Maisonneuve qui part en quête de colons, grâce à un document qui date d'environ 1665. Et il y est clairement indiqué que Montréal sera abandonné si un nombre suffisant de colons n'est pas trouvé. Une enquête. C'est un nouvel examen des riches archives du Musée de la Civilisation à Québec qui a permis de mettre au jour d'importants documents de la main de Jeanne Mance. La cofondatrice de Montréal, comme on la désigne désormais, avait légué à sa mort à Monseigneur François de Laval, fondateur du séminaire de Québec et premier évêque de Québec, l'ensemble de ses papiers. Où étaient donc passés ses papiers? Tous ces papiers qu'elle disait lui faire don à condition qu'il veuille bien prier Dieu pour le repos de son âme. Le directeur général du musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, Paul Labonne, se l'est demandé avec l'archiviste Peter Gagné du musée de la civilisation à l'heure du 350e anniversaire du décès de Jeanne Mance. Une nouvelle exposition consacrée à cette mystique déterminée était en préparation. Des célébrations autour de Jeanne Mance ont lieu jusqu'en juin 2024. Quelques documents retrouvés portent la lettre du classement apposée par les notaires au moment de l'inventaire des biens de Jeanne Mance après sa mort, ce qui confirme la provenance des documents et leur authenticité. Les cotes se trouvent derrière les documents. Elles ont été apposées les 19 et 20 juin 1673, après le décès de Jeanne Mance, après son décès à l'Hôtel-Dieu. C'était des documents récemment découverts brossent un portrait du Montréal de 1650, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 18 janvier 2024 dans Le Devoir.
Des inventions aux destinées différentes, un texte de Dominique Charpin, paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche. Quand il est question de l'invention d'une écriture, on envisage des situations très différentes. Il s'agit d'abord de l'invention de l'écriture en tant que telle. On peut la définir comme une technique de stockage de l'information qui permet sa réutilisation dans l'espace et ou dans le temps. Elle peut avoir des finalités pratiques, comme la gestion, grâce à des documents comptables, ou la communication, grâce à des lettres. Elle peut aussi relever de la symbolique, avec la commémoration d'un personnage, par l'inscription de son nom et de son titre sur un objet ou un monument. La question suivante est de savoir si toutes les écritures connues remontent à une seule invention ou s'il a existé plusieurs foyers indépendants à des époques différentes. Selon le cas, on parlera d'une ou de plusieurs inventions primaires. Il existe également des inventions qu'on peut décrire comme secondaires. Dans une région où le principe même de l'écriture était déjà connu, on a plus tard affaire à l'invention de nouvelles écritures, souvent destinées à noter des langues différentes. Certains parlent d'écriture à propos des décors des parois des grottes préhistoriques, ou encore des symboles découverts sur des tablettes en pierre à Jerf al-Ahmar, Syrie, datant de la fin du 10e au milieu du 9e millénaire avant notre ère. Pour éviter d'inutiles confusions, soyons clairs et retenons avec l'égyptologue Pascal Vernus que l'écriture au sens propre est un code capable de fixer des énoncés linguistiques et c'est cette capacité même qui doit être utilisée comme critère pour décider parmi les systèmes de notation symbolique ceux qui relèvent de l'écriture et ceux qui n'en relèvent point. Ainsi, l'héraldique constitue un code symbolique très sophistiqué, mais il ne s'agit pas d'une écriture. On considère le plus souvent qu'il a existé quatre foyers où l'écriture a été inventée de façon indépendante à des époques différentes. L'Égypte, la Mésopotamie, la Chine et l'Amérique centrale. Lorsqu'on cite l'Égypte et la Mésopotamie, on doit souligner que la situation est loin d'être simple. Il existe en effet une écriture dite proto-cunéiforme dont les premiers témoignages, retrouvés à Uruk, actuel Warqa en Irak méridional, datent d'environ 3200 ans avant notre ère. Le nom de proto-cunéiforme lui a été attribué du fait que l'écriture cunéiforme classique de la Mésopotamie en dérive. Cependant, cet état premier est fait de signes imprimés dans l'argile qui ne sont pas encore en forme de coin. Du latin « cunei », ils sont figuratifs, même si leur dessin est en majorité plus symbolique que réaliste. On ne doit toutefois pas oublier l'écriture dite « proto-élamite ». Il est désormais établi que ses débuts, attestés en Iran et notamment à Suse, vers 3200 ans avant notre ère, sont exactement contemporains de ceux de l'écriture proto-cunéiforme de la basse Mésopotamie, principalement attestée sur le site d'Uruk. L'écriture proto-élamite utilise, comme le proto-cunéiforme, l'argile comme support privilégié. La forme des signes constitue un répertoire complètement différent, à l'exception notable du système numéral. Ce dernier fait montre qu'il n'est pas question d'invention véritablement indépendante. Si l'on considère que ces deux écritures sont issues d'un seul foyer initial, il faut alors reposer la question du rapport de celui-ci avec l'Égypte. Certes, les hiéroglyphes égyptiens sont très différents des signes proto-cunéiformes ou proto-élamites. On a donc affaire à des écritures distinctes. Mais elles sont nées à peu près au même moment, dans la deuxième moitié du quatrième millénaire avant notre ère. Or, il s'agit d'une période où les contacts avec la Mésopotamie ont laissé des traces sur le sol égyptien. Des éléments caractéristiques de la culture dite d'Uruk IV, comme les mosaïques de Khon, ont été retrouvés dans la vallée du Nil. Des motifs iconographiques, comme les monstres à longs cous enlacés, se retrouvent aussi bien sur des sceaux mésopotamiens que sur des objets égyptiens. Par conséquent, il y a eu des relations très étroites entre la basse Mésopotamie et l'Égypte à cette époque, et il est difficile de croire que cela n'ait pas joué sur la naissance de l'écriture. Une seule encore utilisée de nos jours. De ces trois régions, l'Égypte, l'Irak méridional et l'Iran du sud-ouest, laquelle a été la première? Il y a quelques années, certains égyptologues ont cru avoir trouvé la preuve qu'il s'agissait de l'Égypte. En 1986, l'équipe de l'archéologue Günther Dreyer, 1943-2019, alors directeur de l'Institut archéologique allemand au Caire, a en effet découvert, dans le cimetière d'Oum el-Kaab, près d'Abydos, sud de l'Égypte, une tombe qui contenait des sortes d'étiquettes en os et en ivoire sur lesquelles étaient gravés des signes généralement isolés. Le répertoire se monte à une cinquantaine de signes, dont certains évoquent les hiéroglyphes postérieurs. L'ensemble est daté de la période dite Nakada III, vers 3250 avant notre ère. S'agit-il déjà d'une écriture? En réalité, on a affaire à un assemblage d'emblèmes non linguistiques, selon l'égyptologue Andreas Stauder. Il n'est donc pas possible de dire que l'Égypte a été la première. Mais il est clair qu'au même moment et avec des influences réciproques, Égypte, basse Mésopotamie et Susiane ont formé le foyer où les premières écritures primaires ont été inventées. La Chine constitue un autre foyer indépendant, mais il est plus récent, du moins si l'on écarte la légende ou des affirmations nationalistes mal étayées scientifiquement. Les premiers témoins incontestables de l'écriture chinoise ont en effet été retrouvés dans des tombes datant d'environ 1200 avant notre ère. Ils ont pour support des carapaces de tortue et des omoplates de bovins, ainsi que divers objets en bronze. Ce sont avant tout des textes divinatoires. Certains savants, frappés par le caractère déjà très évolué de cette écriture, estiment peu probable que ce qui a été retrouvé puisse constituer un début. Des états plus anciens pourraient avoir existé sur des supports périssables. Quoi qu'il en soit, ce que l'écriture chinoise a de remarquable, ce n'est pas son ancienneté, mais le fait qu'elle est la seule écriture primaire encore utilisée de nos jours. Un dernier foyer primaire se situe en Amérique centrale. L'écriture maya est désormais majoritairement déchiffrée. Mais on sait qu'elle ne fut pas la première. Au Mexique, l'isthme de Tehuantepec a livré une écriture plus ancienne, encore à déchiffrer, qu'on appelle épi-olmec ou écriture isthmique. Les foyers primitifs ont connu des devenirs distincts. L'écriture chinoise est toujours utilisée de manière presque inchangée, tandis que les écritures d'Amérique centrale se sont éteintes sans avoir de postérité. Les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture cunéiforme, abandonnées au début de l'ère chrétienne, ont toutefois donné naissance à des rejetons, dont certains conduisent, par étapes, jusqu'à l'alphabet occidental. Du côté du cunéiforme, on doit souligner à quel point cette écriture a servi à noter des langues très variées. Il existe un vif débat pour savoir si la langue notée en proto-cunéiforme était le sumérien ou une langue antérieure appelée conventionnellement proto-euphratique. Dès que les textes deviennent véritablement lisibles, il s'agit du sumérien. Vous écoutez Des inventions aux destinées différentes, un texte de Dominique Charpin, paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche. Mais rapidement, dans le courant du troisième millénaire avant notre ère, l'écriture cunéiforme fut adaptée pour noter des idiomes sémitiques appartenant à la même famille de langues que l'hébreu ou l'arabe. L'acadien en Mésopotamie et une forme proche dans la ville syrienne d'Ebla, l'héblaïte. Au deuxième millénaire avant notre ère, on s'en servit aussi pour écrire des textes bien différents en langue ourite ainsi qu'en hittite, appartenant à la famille des langues indo-européennes. Au premier millénaire avant notre ère, le cunéiforme servit encore à noter l'ourartéen, apparenté au ourite, ainsi que l'élamite. Toutes ces langues furent notées avec l'écriture cunéiforme classique, qui est de type mixte, puisqu'elle mélange la notation logographique, un signe égale un mot, et la notation phonétique, un signe égale une syllabe. Parfois, on alla au-delà d'adaptation. L'invention d'écritures complètement nouvelles sembla nécessaire. On peut évoquer ici l'élamite linéaire. D'âpres discussions ont lieu actuellement pour savoir s'il s'agit d'une invention complète ou d'une évolution du proto-élamite, d'une écriture phénicienne. Un développement radical eut lieu à Ougarit, actuelle Ras Shamra, Syrie, au XIVe siècle avant notre ère. L'invention d'une écriture de type alphabétique pour noter la langue locale, une forme de sémitique occidentale qu'on a appelée ougaritique. Formellement, on avait encore recours à des coins imprimés dans l'argile à l'aide d'un roseau taillé pour l'écriture, un kalam. Toutefois, le répertoire étant réduit à une trentaine de signes, ceux-ci étaient bien plus simples que ceux de l'écriture cunéiforme classique. On peut penser qu'un tel développement est né d'une prise de conscience de la structure même des langues sémitiques, où le squelette consonantique est l'essentiel, puisque tout le vocabulaire dérive de racines formées le plus souvent de trois consonnes. Il est d'ailleurs intéressant de relever que quelques textes en langue ougaritique ont été notés sans problème en écriture cunéiforme classique. À l'inverse, la notation de texte ou rite avec l'écriture ougaritique s'est révélée problématique puisque la nature de cette langue rend la notation des voyelles indispensable. Quoi qu'il en soit, l'écriture ougaritique n'eut pas de postérité directe. La civilisation du bronze récent à laquelle elle est rattachée, fut balayée peu après 1200 avant notre ère, et l'écriture phénicienne qui suivit apparu au Proche-Orient et notamment à Byblos et à Tyr, ne dut rien à cet essai pourtant brillant. C'est elle qui, via son emprunt par les Grecs, constitue l'origine de l'alphabet latin encore utilisé de nos jours. Proto-cunéiforme et cunéiforme appartiennent à deux catégories d'écriture différentes que l'on oppose généralement. La première est une écriture iconique, la seconde, une écriture linéaire. Mais il n'y a pas entre ces deux types une évolution chronologiquement inéluctable. L'écriture dite hittite hiéroglyphique, écriture iconique, est ainsi plus récente que la notation de la langue hittite en cunéiforme mésopotamien, écriture linéaire. On peut penser que cette écriture, utilisée essentiellement sur des supports monumentaux, des inscriptions rupestres jusqu'à de petits sceaux, fut inventée pour rivaliser avec l'aspect solennel des hiéroglyphes égyptiens. Il s'agirait alors d'une écriture née d'un désir ostentatoire de nature politique. Un autre exemple de commande royale est fourni par le cunéiforme persépolitain. Les spécialistes s'accordent désormais pour considérer que cette écriture de 36 signes, de type essentiellement syllabique, résulte du souhait de l'empereur perse Darius Ier, 521 à 486 avant notre ère, de faire noter le récit de ses exploits en langue perse à l'aide d'une écriture spécifique. Sur la fameuse inscription trilingue de Behistun, c'est la version en écriture persépolitaine qui est spatialement mise en avant. Les versions babyloniennes et élamites ont été gravées sur les côtés. À une communication en emoji. Pendant longtemps, la naissance de l'écriture a été conçue comme un passage soudain qui fit basculer les peuples sans écriture dans l'histoire. On a compris qu'il n'y avait pas de rupture aussi radicale. De grandes civilisations ont pu exister sans le recours à l'écriture ou à la roue. Ce qui frappe, c'est le souci de perfectionnement qui a habité les hommes du passé. Une fois la technique de l'écriture mise au point, plusieurs directions ont été suivies. Certaines visaient à une meilleure adéquation entre l'écriture et la langue. Le cunéiforme fut ainsi adapté à la notation de l'acadien. D'autres ont privilégié la facilité d'apprentissage, l'ougaritique d'abord, puis toutes les écritures alphabétiques. Certaines développèrent le caractère monumental de l'écrit, comme le hittite hiéroglyphique, alors que d'autres ont mis l'accent sur la rapidité de la notation, comme le phénicien ou l'araméen. Le développement récent des emojis montre que l'écriture alphabétique ne constitue pas un horizon indépassable. C'était « Des inventions aux destinées différentes », un texte de Dominique Charpin, paru en septembre 2023 dans le magazine La Recherche.
Le pouvoir d'achat des Québécois est équivalent à celui des Ontariens, selon l'IRIS. Un texte de Stéphane Roland, de la presse canadienne, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir. Les Québécois seraient tout aussi riches que les Ontariens quand on considère leur pouvoir d'achat, selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, qui croit que le gouvernement Legault se trompe de cible en voulant rattraper la province voisine sur le plan économique. Si le produit intérieur brut, PIB, par habitant, est plus bas au Québec qu'en Ontario, l'IRIS souligne que le pouvoir d'achat des Québécois est équivalent à celui des Ontariens. Le Québec n'a pas vraiment de retard de richesse avec l'Ontario, commente en entrevue le chercheur Guillaume Hébert de l'IRIS. L'organisme de réflexion de gauche cite les travaux de l'économiste Pierre Fortin, qui soulignait que le pouvoir d'achat des Québécois était 0,6% supérieur à celui des Ontariens en 2022. En juin dernier, M. Fortin avait d'ailleurs expliqué que le pouvoir d'achat des Québécois avait connu un rattrapage important depuis les années 1980. En 1980, le pouvoir d'achat des Québécois représentait 80% de celui des Ontariens. Il est maintenant relativement équivalent, soit à 101%. À partir de 1990, le rattrapage du Québec a été rapide et persistant, affirmait M. Fortin lors d'une conférence organisée par la firme BCF Avocats d'affaires. Rappelons que le PIB réel par habitant du Québec est 13% inférieur à celui de l'Ontario. Le gouvernement Legault veut ramener l'écart à 10% d'ici 2026. Le PIB par habitant est utilisé pour comparer la richesse entre deux juridictions dont la population n'est pas de taille égale. Un PIB par habitant plus bas indiquerait que les travailleurs du Québec produisent moins de richesses que leurs confrères ontariens. En tenant compte du tissu industriel des deux provinces, M. Hébert affirme que les Québécois sont tout aussi productifs que les Ontariens. À industrie comparable, les Québécois ne produiraient pas moins de richesses. La façon de répondre à cette situation-là, ce n'est pas nécessairement de dire que les Québécois doivent être davantage productifs. Le gouvernement Legault se tromperait de cible en voulant rattraper le PIB par habitant de l'Ontario, plaide l'IRIS à une semaine du développement du budget provincial. M. Hébert souligne que le PIB ne tient pas compte de la répartition de la richesse dans la population, du bien-être de ses résidents ou des dommages environnementaux causés par certaines industries. Il ne faut pas perdre de vue que le simple rattrapage du PIB par habitant de l'Ontario pourrait nous mener à dégrader davantage, en fait, l'économie ou la situation générale des Québécois et des Québécoises. Si on a seulement pour objectif de faire croître le PIB, mais sans penser aux retombées sociales et environnementales, on pourrait combler une partie de l'écart qui nous sépare de l'Ontario, mais il serait possible que la population ne s'en trouve pas dans une meilleure position, ajoute le chercheur. C'était « Le pouvoir d'achat des Québécois est équivalent à celui des Ontariens selon l'IRIS », un texte de Stéphane Roland, de la presse canadienne, paru le 8 mars 2024 dans Le Devoir.